En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Ah, Sidonie, pourtant que la montagne est belle, et comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne ne va pas tarder à arriver.
Vous allez pas me faire croire que c'est vous, ça, Jean-Sébastien.
Ah non, c'est pas de moi, c'est de...
Outre. Je m'en doutais un peu. Pourtant, vous avez une jolie plume, Jean-Sébastien.
Par en Ardèche, hein. Et l'automne va pas tarder à arriver.
C'est vrai, déjà. Il est passé si vite, cet
bon,
été.
Bon, allez, un mois encore. Générique.
RTL.
Jusqu'à 16h.
L'été made in France.
Sidonie Bonnec, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. C'est notre dernière semaine ensemble à la découverte des jolies villes et des jolis coins de France. On a le plaisir aussi de jouer avec vous. On attend vos appels au 3210. Vous pouvez aussi nous envoyer par SMS été, c'est encore l'été, au 74 900. On a pas mal de choses à vous offrir, des guides du routard, des montres RTL, un bon d'achat de 150 € à valoir sur le site myfujifilm.fr, et puis bien sûr des vacances, séjour bleu. Un séjour vacances bleues, ça m'aura fait tout l'été, je pense.
Au chalet du Prarayan, c'est à Megève, c'est dans les Alpes, face au Mont Blanc. Et nous allons, pour cela, aujourd'hui, vous faire jouer autour de ce magnifique département
Appelez-nous.
Qu'est l'Ardèche.
C'est la dernière semaine, c'est la dernière finale, samedi, donc, après-demain. Jean-Sébastien, quelle est votre carte postale de l'Ardèche?
L'Ardèche, c'est marqué vraiment par des paysages absolument superbes, de rocs, de gorges profondes. C'est un peu le Far West à l'horizon de Valence. Et il suffit de prendre la départementale, l'ex-nationale 86, qui traverse l'Ardèche, qui est l'une des plus belles routes de l'Hexagone, qui longent les coteaux de velours gris et d'émeraude, où culmine au perché, ici et là, un village, un château. On traverse des bourgs souriants. Et puis, on va en Ardèche pour découvrir le sous-sol. Parce que les spéléologues disent que le sous-sol de l'Ardèche tient davantage du gruyère que de l'emmental, et ils le considèrent souvent comme le paradis perdu. Ce monde souterrain, c'est le résultat d'une lente érosion. Du coup, en Ardèche, on remonte aux origines de l'homme. Il y a plus de 30 000 ans, les premiers artistes français étaient des Ardéchois et ils se sont installés dans la grotte Chauvet. C'est la terre bénie également des artistes. Jean Ferrat s'est installé à Entraigues-sur-Volanne, petit village de l'Ardèche où Ferrat s'est installé, qui lui a inspiré justement la montagne. Le long des routes sinueuses, au fil des ruelles ombragées, armés de chaussures de montagne, les pieds dans l'eau, il y a des charmes multiples à ces Cévennes ardéchoises, le long de la vallée de la Volanne, autour d'Aubenas, aussi la capitale de la région, qui dispose de son château, qui a été remanié, qui est planté sur un lieu stratégique, qui conjugue panorama et décoration fine. Et puis il y a une ribambelle de châteaux et partout de l'eau qui s'écoule au creux des vallées. On aura évidemment envie d'aller y piquer une tête, et car au son du clapotis de l'eau au pied des rochers tachetés d'arbres sur des plages reculées, dissimulées dans des petits bois charmants, on est dans le calme et la sérénité de l'Ardèche.
Et c'est tout d'abord un photographe qui va nous offrir un panorama à 360 degrés de l'Ardèche. Puis nous irons à découvrir la magnifique réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Vous en parliez, Jean-Sébastien. Nous irons à la rencontre de castanéiculteurs. Mais qu'est-ce donc? Ce sont des producteurs de châtaignes, un peu la spécialité du coin. Nous découvrirons aussi l'histoire passionnante de la montgolfière et du papier. Figurez-vous qu'elles sont un peu liées, vous allez comprendre bientôt pourquoi.
Exactement.
Et avec le philosophe Michel Onfray, nous descendrons dans la plus ancienne grotte ornée connue au monde. Elle a 36 000 ans. Imaginez, c'est la grotte de Chauvet. Et puis, nous évoquerons Jean Ferrat et son village d'Entraigues-sur-Volanne. Nous sommes au cœur de l'Ardèche jusqu'à 16h. C'est l'été Made in France.
RTL, l'été Made in France.
Présenté par Jean-Sébastien Petit-Demange et Sidonie Bonnec.
Bonjour Daniel Donzel.
Bonjour.
Vous êtes photographe et vous photographiez particulièrement l'Ardèche. D'ailleurs, c'est les paysages de l'Ardèche qui vous ont donné envie d'être photographe.
Les paysages qui m'ont donné envie sur l'Ardèche, vous voulez dire? Tout ce qui, beaucoup l'Ardèche du Sud déjà, parce que j'aime beaucoup le relief et puis tous ces sites naturels.
Voilà. L'Ardèche, on dit que c'est la petite Corse. Pourquoi on l'appelle comme ça?
Bah, on l'appelle comme ça. Bon, moi, j'ai entendu parler de ça, et surtout, ça, je connais bien la Corse aussi. Donc, il y a beaucoup de châtaigniers, de genêts, surtout par la végétation d'avant. Donc, il y a beaucoup de châtaigniers, des genêts, des figuiers, des chênes verts, des arbousiers, du maquis. Donc, là, on retrouve vraiment la Corse par la végétation.
Et puis, ce côté, évidemment, montagneux, petite montagne, bien sûr.
Voilà, ouais. Les villages accrochés au fond de montagne, des rivières, des torrents. La culture de la châtaigne et ses produits dérivés.
Faut bien expliquer que l'Ardèche, c'est grossièrement divisé en trois parties, c'est ça ?
En trois parties, ouais. Vous avez le nord, l'Ardèche un peu au centre, et puis l'Ardèche du sud.
Et ces trois paysages qui sont très différents dans ces trois zones géographiques.
Moi je connais très peu l'Ardèche du Nord, mais ouais. De ce que je connais surtout c'est Annonay, qui est en vrai la capitale des frères montgolfiers. C'est très beaucoup de collines, très vert, très vallonné. Et d'ailleurs, on peut y faire des vols en montgolfière. C'est vraiment super impressionnant et c'est la meilleure façon de découvrir l'Ardèche du Nord.
Quels sont les clichés que vous aimez faire en Ardèche, Daniel Donzel, vous qui êtes photographe?
Moi, j'aime bien les vues vues du haut, quoi, vues d'altitude, c'est-à-dire les points hauts. J'ai beaucoup aimé la vue entre Privas et le col de l'Escrinet. Vous avez une vue plongeante et panoramique sur tout le sud de l'Ardèche. On y découvre la vallée et puis les reliefs au loin. C'est-à-dire tout le Aubenas sur la droite. Vous avez aussi donc tous les monts d'Ardèche. Après vous voyez les Cévennes au loin avec le Gard la Lozère. Et vous voyez aussi tout ce qui est côté gorge de l'Ardèche.
Les photographes sont souvent passionnés par les couleurs évidemment qui se dégagent de ces paysages. Comment vous pourriez expliquer ces couleurs, nous décrire ces coloris de l'Ardèche?
L'Ardèche,
c'est multiple, évidemment.
Il y a beaucoup de roches différentes. Donc vous passez il y a beaucoup de calcaire, la pierre blanche, grise. Donc moi, je suis très fan du calcaire, parce que je fais beaucoup de spéléologie. Donc d'ailleurs, je connais très bien les réseaux souterrains d'Ardèche. Et sinon, en général, c'est très varié. Vous avez aussi bien du granit, de la pierre volcanique, donc il peut y avoir des teintes noires. Si vous allez vers Planzol, Mont-Seigle, qui est direction les Cévennes, vous allez avoir des pierres un peu rouges. Les maisons vont être un peu avec des pierres teintées. Si vous êtes au bord de l'Ardèche du Sud, au bord de, par exemple, des villages comme Vauguay ou Balazuc, vous allez trouver des pierres rondes. Les maisons ont été construites avec des pierres rondes de rivière. Donc vous avez vraiment des teintes complètement différentes.
Et Daniel Donzel, vous qui habitez à Vallon-Pont-d'Arc, justement, il y a autant à voir sur terre que sous terre. Hein.
Voilà, exactement. Y a la grotte la plus connue, c'est la grotte de Chauvet.
Bien sûr.
Qui a été découverte il y a une vingtaine d'années, avec des peintures qui ont plus de 36 000 ans. Là, vous allez y voir des lions, des mammouths. Je crois que dans la grotte, on trouve 76 représentations de mammouths. Mais elle est vraiment exceptionnelle. Bon, moi, je ne l'ai pas visitée, mais j'ai deux ouvrages dessus, donc je me suis intéressé. Sinon, vous avez aussi quelque chose d'assez sympa à visiter, qui fait toujours partie du même réseau, c'est Orgnac. C'est un grand site de France.
Orgnac, oui.
Ouais, et là, vous allez trouver des salles qui font plus d'un hectare. C'est très, 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 c'est splendide, quoi. Vous allez avoir des concrétions qui vont monter jusqu'à 16 mètres de haut. Et pour finir, au niveau des grottes, vous avez la grotte de la Coquelière, qui limite Ardèche, Gard. Et là, c'est vraiment la grotte dans le sens, c'est vraiment une grotte. Elle est vraiment horizontale, donc on peut la visiter avec des enfants sans problème. Et vous avez un nombre incroyable de concrétions. Moi, c'est un souvenir d'enfance, hein. Je me rappelle, quand on était descendu de en bas, il y a une espèce de petit lac qui doit faire 5 cm de profondeur. Mais en vrai, quand vous êtes gamin et que vous regardez, vous avez l'impression que ça fait 200 mètres de fond. Et ça, c'est vraiment mes souvenirs d'enfance. Est-ce qu'on finit à la fin, il y a des vestiges un peu de fouilles, il y a un squelette, et puis vous finissez par un petit train. Bon, c'est très ludique. C'est très sympa.
Merci beaucoup, Daniel Donzel. On parlera de la grotte Chauvet, justement, tout à l'heure, avec Michel Onfray, qui est descendu à l'intérieur et qui va nous raconter ce qu'il a vu.
Et puis, on peut vous lire, évidemment, aux éditions Mission Découverte, Ardèche 360, comme ça tombe bien.
Merci Daniel Donzel.
Un petit mot, je peux rajouter un petit mot ou...
Allez-y.
Oui, parce qu'en vrai, il y a le symbole aussi de l'Ardèche, c'est le pont d'Arc.
Justement
pour ça, moi j'ai créé, je suis en train de réaliser un site internet où on va pouvoir présenter la carte postale du pont d'Arc toute l'année grâce à un appareil photo panoramique qui sera là en automatisé.
Super. Voilà.
Merci à vous, Daniel Donzel.
Je vous remercie.
Belle été en Ardèche.
Bonne
fin d'été.
RTL.
Chaque après-midi,
l'été made in France.
Sidonie Bonnec, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Cet après-midi, nous sommes partis à la découverte de l'Ardèche. Et l'un des trésors de cette région, c'est la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Et pour nous la faire découvrir, Denis, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Denis Doublé, vous êtes le conservateur de cette réserve naturelle. Elle se trouve où, cette réserve ?
Alors, elle se trouve au sud de l'Ardèche.
Oui.
L'Ardèche, je vais juste la situer rapidement. Hein. C'est le sud de la région Rhône-Alpes. Et on va dire que c'est en rive droite du Rhône. Voilà, pour situer un petit peu. On est vraiment très très proche, limitrophe du Gard.
Ces gorges de l'Ardèche, c'est comme un grand canyon ?
C'est un grand canyon, c'est ça, où la rivière serpente encaissée entre des versants boisés, hein, qui sont dominés par la chaîne des Vertes. Elle serpente sur 22, voire une trentaine de kilomètres maximum. Hein. Elle a donc entaillé ce vaste plateau calcaire. On a aussi des falaises qui sont relativement hautes, qui peuvent aller jusqu'à 250 mètres de hauteur.
C'est un paysage absolument impressionnant et d'une beauté époustouflante.
Ah, c'est un très beau paysage, relativement exceptionnel quand même en France, et même on va dire à l'international. Soyons chauvins, c'est vraiment remarquable, avec plus de 2000 espèces végétales qui sont présentes dans ce site protégé, puisque c'est une réserve, comme vous l'avez dit, naturelle, nationale. Et donc aussi énormément d'oiseaux, d'une faune très très riche. D'un point de vue aussi culturel, c'est pas vraiment l'objet d'une réserve naturelle, mais en tout cas, on est très 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 bien doté en termes d'archéologie. La grotte Chauvet, qui est pas très loin de la réserve, qui au tout début est très proche
de Vallon-Pont-d'Arc.
Du Pont d'Arc. Oui. Voilà, j'y arrive.
On la découvre comment cette réserve naturelle ? Par quels moyens ? Elle est facilement accessible ? Pardon, je parle des gorges, pardon. Les gorges de l'Ardèche, elles sont faciles à aborder, à découvrir ?
Pas véritablement très facile, en tout cas. Il y a deux solutions, voire trois, on va dire. La première, c'est celle qui est la plus souvent utilisée, c'est avec la rivière, sur la rivière, en canoë-kayak. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Vous avez aussi la possibilité de randonner le long de la rivière, au fond des gorges, sur les 30 kilomètres du canyon. Et puis aussi, une autre manière, bon, qui est moins sportive, hein, on peut aussi admirer par le haut, par la route touristique des gorges de l'Ardèche, sur une dizaine de belvédères, des points quand même qui sont sublimes à observer par le haut. C'est vrai que c'est très bien par le bas, mais aussi par le haut, c'est relativement intéressant de pouvoir voir ce panorama de parois rocheuses, de la rivière au fond, et puis une vaste étendue de forêt de chênes verts.
Denis Doublé, c'est également cette zone de l'Ardèche, un changement de climat. On se retrouve pratiquement dans un climat beaucoup plus tempéré, presque méditerranéen. Du coup, ça influe énormément sur la végétation.
Ah, complètement. On est en climat méditerranéen avec des zones, des influences plus continentales, mais la présence du chêne vert, la présence de garrigues, de plantes de garrigues, du genévrier par exemple de Phénicie, hein, qui est relativement exceptionnel puisqu'il pousse entre autres sur des parois rocheuses et très souvent la tête en bas. Il fait l'objet d'ailleurs d'une recherche d'études depuis au moins 10 années. C'est vraiment, oui, vraiment des grandes influences méditerranéennes. Avec, par exemple, sur les parois rocheuses, deux couples d'aigles de Bonelli, qui sont donc des aigles sédentaires et qui sont aussi appelés aigles des garrigues.
Quels sont les autres animaux qu'on peut découvrir dans ces gorges, ou en tout cas dans cette réserve naturelle des gorges de l'Ardèche ?
Alors, si on reste sur les parois rocheuses, on pourra observer du faucon pèlerin. Mmh. Il y a trois couples dans la réserve qui restent à demeure. On peut observer aussi des oiseaux migrateurs, comme le vautour percnoptère, voire des vautours fauves, qui sont de plus en plus présents au-dessus des territoires des gorges de l'Ardèche. Et puis si on est sur l'eau, qu'on a quand même la chance ou qu'on souhaite partir un peu tôt le matin, on pourra peut-être observer la loutre, qui est de nouveau dans les gorges depuis début des années 2000. Le castor, très présent, qui n'a fait l'objet d'aucune réintroduction, d'ailleurs comme toutes les espèces qui sont présentes dans la réserve. Castor qui est présent donc depuis fort longtemps. On pourra aussi observer des espèces emblématiques, hein, de poissons, comme la lauze, un poisson migrateur qui remonte de la Méditerranée par le Rhône, et puis pour se reproduire au mois de mai dans différents affluents, comme l'Ardèche.
Et aussi 23 espèces de chauves-souris, incroyable.
Exactement. Ça, c'est le troisième milieu, puisque le quatrième milieu que j'ai pas encore évoqué, c'est vraiment le milieu souterrain, c'est un véritable gruyère. Voilà, on est dans du calcaire, hein, énormément de cavités, et c'est donc des refuges pour au moins 23 espèces de chauves-souris. Elles se reproduisent, elles passent aussi l'été. C'est vraiment, elles font l'objet d'ailleurs de toute notre attention, comme la plupart des espèces, hein, puisqu'on mène pas mal de suivi en interne, donc au sein du syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche, qui gère la réserve naturelle, et puis aussi avec nos partenaires.
Tout cela à découvrir dans la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Merci infiniment, Denis Doublé.
Merci à vous.
L'été Made in France.
Présenté par Sidonie Bonnec et Jean-Sébastien Petit-Demange.
RTL.
Aujourd'hui, on randonne en Ardèche avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Et l'on fait une petite pause. On a posé nos sacs à dos et on va vous accueillir pour jouer avec nous et répondre à nos questions. Bonjour Michel.
Bonjour Sidonie. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Michel.
Vous allez bien ?
Je vais très bien, merci.
Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Chabeuil, dans la Drôme.
Vous connaissez un petit peu l'Ardèche, alors ?
Oui, bien sûr.
Oui. Vous aimez bien ?
Pas entièrement, hein, parce
bien
que c'est tellement vaste,
c'est
l'Ardèche.
Immense.
Hein.
Bien sûr.
Est-ce que c'est vraiment un beau département.
Est-ce que vous êtes prête à répondre à nos trois questions ?
Pas de problème.
On y va. Un des hauts lieux du tourisme en Ardèche, c'est l'Avène Marzal. Par qui a-t-il été découvert pour la première fois ? Édouard Alfred Martel ou bien Pierre-Alexandre Lascaux ?
Martel.
C'est noté.
Le mont Gerbier de Jonc, sur lequel on trouve les sources de la Loire, a une particularité. Laquelle ? C'est un volcan identique à la montagne Pelée qu'on l'on trouve à la Martinique, ou c'est une montagne connue pour avoir été la première mine d'or de France ?
La première, la montagne Pelée.
C'est noté.
En Ardèche, on vous fera goûter la cousina, grande spécialité de la région. Mais qu'est-ce que c'est ? De la soupe de châtaigne ou bien des escargots en cassolette à l'ardéchoise ?
C'est une soupe à la châtaigne.
C'est noté, Michel. Édouard Alfred Martel, vous avez tout à fait raison. C'est lui qui a découvert l'Avène Marzal, qui est un des hauts lieux, un des gouffres les plus impressionnants qui soit profond de 125 mètres, dans lequel on plonge par un escalier étroit de plusieurs centaines de marches. Et à l'intérieur, c'est un paysage hérissé de stalactites, de stalagmites. C'est une des plus belles grottes souterraines de France, l'Avène Marzal. Alors, qui ne s'appelle pas l'Avène Martel ? D'habitude, on donne le nom du découvreur. Et là, en l'occurrence, on a donné le nom d'un garde-chasse. Et c'est une histoire un peu tragique qui, en 1812, a été assassiné. Et on l'a jeté pour cacher son corps dans ce trou qui est devenu plus tard l'Avène Marzal, en hommage à ce garde-chasse qui s'appelait Marzal. C'est
d'accord.
Un premier point. Vous avez raison sur la deuxième question également. Les sources de la Loire qui se trouvent au Mont Gerbier de Jonc. Eh bien, effectivement, ces sources qui sont l'autre star incontestée du tourisme local, 1551 mètres d'altitude. Eh bien, c'est effectivement un ancien volcan péléen du même type que la montagne Pelée à la Martinique. Et puis. Vous vous en sortez super bien, Michel, parce que la cousina, effectivement, c'est la soupe à la châtaigne. Alors, on met pas de farine de châtaigne comme en Corse.
Non.
On parlait de la petite Corse tout à l'heure. On met des fruits entiers, des fruits séchés. La soupe à la châtaigne, en Ardèche, c'est un peu à l'adulte ce que le lait de maman est au nourrisson. C'est absolument indispensable. Et pour vous, c'est pile poil bien parce que vous marquez 3 points.
Bravo, Michel.
Tant mieux.
On va voir si Sarah arrive à vous rejoindre, au moins, pour faire égalité. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bonjour.
Oui, ça va. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas les connaissances de ma précédente candidate. Mais
concentrez-vous bien sur les deux réponses. Évitez les pièges, tout ira bien, Sarah. Vous nous appelez de
D'accord.
Nancy.
Allô ?
Vous nous appelez de Nancy ? Vous connaissez un peu l'Ardèche ?
Oui, je vous appelle de Nancy, oui.
Et vous connaissez un petit peu l'Ardèche ?
Oui, je suis allée une fois, oui, du côté Aubenas, l'Argentière, etc. Je fais un petit périple d'une semaine, oui.
Bon, alors essayez de mobiliser toutes vos connaissances. C'est parti, trois questions pour vous. Une des belles cités de l'Ardèche se nomme Joyeuse. Selon la légende, d'où lui vient ce nom ? De Anne de Joyeuse, un des mignons de Henri III, ou bien de Joyeuse, l'épée de Charlemagne ?
De Joyeuse, l'épée de Charlemagne ?
C'est noté.
Annonay est la ville qui a vu naître les frères Montgolfier. Ils sont bien sûr à l'origine de la Montgolfière, mais ils inventèrent aussi autre chose. Quoi ? Le papier vélin ou bien le dérailleur ?
Oh là là, je ne sais pas du tout. Le papier vélin ou le dérailleur ? Le dérailleur.
C'est noté.
Pas du tout sûr.
Les amateurs le considérèrent comme l'un des plus grands vins blancs du monde. Il est en partie produit en Ardèche. De quel vin s'agit-il ? Du Chablis ou du Condrieu ?
Du Condrieu.
C'est noté. Alors, vous avez raison. La cité de Joyeuse, selon la légende, viendrait du nom, serait un terme en relation avec l'épée de Charlemagne. On a aussi évoqué le terme de Godinelle qui signifiait fille de joie. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec Anne de Joyeuse, qui était effectivement, et vous avez été surpris en lisant le questionnaire au début, c'est effectivement un garçon, Anne de Joyeuse, qui était d'Henri III, qui était un de ses favoris. Vous marquez un premier point. Mais je suis désolé, sur la deuxième question, Sarah, vous ne rattraperez pas Michel.
Non, je ne sais pas pourquoi, c'est un piège, oui.
Et effectivement, les frères Montgolfier n'ont pas inventé le derrière. Ils ont inventé le papier vélin. Et on va en parler tout à l'heure, parce que la marque Canson est née à Annonay, au même endroit que la Montgolfière. Et puis, c'est bien dommage que les frères Montgolfier ne vous aient pas porté chance, parce qu'effectivement, en Ardèche, on fait un des plus beaux vins qui soit, un des plus beaux vins blancs qui soit,
oui,
le Condrieux, avec cette robe d'or pâle, un vin capiteux, onctueux, et qu'on produit aussi en Haute-Loire et dans le département du Rhône. Sarah, deux points, donc une montre RTL pour vous remercier, Michel, un guide du routard en plus, et on vous retrouve en fin d'émission pour la finale du jour.
Et puis on continue bien sûr de découvrir l'Ardèche, on va se rendre dans une ferme du Châtaignier à Lamastre, c'est en Ardèche bien sûr.
RTL. 14h, 16h. L'été made in France.
Nous sommes en Ardèche et nous allons à Lamastre à la rencontre de Martine Grange. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes castanéicultrice, on dit ça pour les filles ?
Oui, c'est compliqué, mais oui. Castanéicultrice. Ouais.
C'est un sacré mot et c'est un sacré métier aussi. Il consiste en quoi, votre métier ?
Alors, une castanéicultrice, c'est une agricultrice qui a des châtaigniers, donc qui s'occupe de tout ce qui est plantation de châtaigniers, ramassage. Tout ce qui est taille, greffage, enfin tout ce qui appartient à la châtaigne.
C'est comment ? Vous avez un champ de châtaigniers ? Ils sont nombreux ?
Alors nous avons 25 hectares de châtaigniers, ce qui correspond à peu près à 2000 arbres.
Oh, c'est beaucoup ?
À peu près, oui.
Ils ont quel âge, vos arbres ?
Donc les plus vieux ont 350 ans, la majorité ont autour de 200-250 ans. Donc.
Oh, c'est incroyable, et ça donne encore de la châtaigne à cet âge ?
Et ça donne toujours de la châtaigne, oui, avec un minimum d'entretien, donc pour les conserver aussi longtemps, puisqu'il existe quand même des châtaigniers millénaires, il faut surtout les tailler, il faut surtout surveiller les problèmes de maladie, il faut les visiter régulièrement pour essayer d'échapper à tout ça. Et les conserver le plus longtemps possible.
Martine, la châtaigne en Ardèche, c'est un élément totalement indispensable et indissociable du département.
Ben, la châtaigne, c'est nos patrimoines. Hein. La châtaigne ardéchoise, c'est 5000 tonnes de châtaigne sur le département, avec 500 producteurs. Alors oui, il y a toute une économie locale qui tourne autour de la châtaigne, c'est très important. Oui.
Elle se mange comment, cette châtaigne ?
Alors vous avez
comment ça commode ?
On a plusieurs solutions, soit on la mange grillée, bon, typique sur les marchés de Noël, où tout le monde a cette référence.
Son petit cornet de châtaigne grillée.
Voilà, c'est ça. En Ardèche, on la mange beaucoup en entrée, épluchée avec une salade verte, soit ouais. Grillée, soit cuite à l'eau. On la mange aussi en purée, en accompagnement avec d'autres purées de légumes ou une purée de pommes de terre, gratinée au four.
Il y a la châtaigne sucrée, bien sûr, elle se cuisine aussi.
Il y a la châtaigne sucrée avec tout ce qui est crème de châtaigne, confiture, avec soit sur une tartine, soit avec du fromage blanc, du yaourt, de la faisselle, ou alors bien sûr le marron glacé.
Et puis Martine, en Ardèche, il y a beaucoup de variétés de châtaigniers.
Alors dans le cadre de l'AOC Châtaigne d'Ardèche, vous avez 67 variétés de recensées, oui.
Et ça donne des châtaignes qui ont vraiment un goût différent ou pas ?
Alors vous avez des châtaignes qui ont un goût beaucoup plus sucré, d'autres qui sont un petit peu plus farineuses, donc c'est des châtaignes qu'on va, toutes celles qui sont plus sucrées, on va plus les utiliser entières ou en confiture, ouais. Et les autres on va les mettre en farine, puisque la farine ça se mange aussi bien en salé qu'en sucré quand même.
C'est bientôt la récolte pour vous là, Martine ?
Alors nous on démarre ouais, vers le début octobre, 10-15 octobre, enfin là on n'est pas très en avant cette année, mais c'est ce qui va se passer. Ouais.
Comment vous les récoltez les châtaignes d'ailleurs ? Vous secouez les arbres comme, comme les olives et vous les faites tomber dans des filets ?
Ah non, on attend que ça tombe.
Ah oui ?
Ah, c'est bien.
Parce que si elle n'est pas tombée, c'est qu'elle n'est pas mûre.
D'accord.
Donc il faut
laisser le temps.
Voilà, il faut respecter l'arbre.
Martine Grange, en tout cas, on peut visiter votre châtaigneraie. Vous organisez une visite, vous expliquez le métier. Évidemment, j'imagine que vous faites déguster quelques produits.
Oui, bah oui, on explique tout le métier de la châtaigne, on visite l'atelier transformation et on fait déguster tous les produits que nous fabriquons. Oui.
En tout cas, on a mis sur le site de l'émission rtl.fr un lien qui permet de découvrir votre châtaigneraie et puis pour s'y rendre évidemment aussi, pour voir ça et goûter ça en vrai. Merci à vous.
Merci à vous.
Dans un instant, on continue de se balader en Ardèche. Je vous dis à tout de suite dans l'été Made in France.
RTL.
Chaque après-midi,
l'été Made in France.
Sidonie Bonnec, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Nous parcourons l'Ardèche cet après-midi et nous nous rendons à Davézieux à la rencontre de Marie-Hélène Reynaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du musée des papeteries Canson et Montgolfier. Votre musée raconte deux histoires, celle du papier et celle de la montgolfière. Pourquoi elles sont liées, ces deux histoires ?
Ah, pourquoi sont-elles liées ? Eh bien, d'abord, les montgolfiers sont des papetiers qui sont donc installés en Ardèche, autrefois on disait le Vivarais, depuis le XVIIe siècle.
Et ce sont des frères.
Évidemment, ce sont aussi, au XVIIIe siècle, des hommes du siècle des Lumières qui sont passionnés par toutes les inventions à venir. Et ils vont donc inventer le ballon. Ils vont inventer la montgolfière qu'ils vont fabriquer dans leur papier. Donc le musée dans leur maison natale, leur papeterie, et c'est le lieu de la création du premier ballon et du départ de la conquête de l'air et de l'espace.
C'est ce que vous racontez dans ce musée ?
Voilà, donc c'est un musée qui, bien sûr, raconte, on va dire, presque 4 siècles de papeterie, avec les évolutions, les innovations que l'on doit aux montgolfiers, aux cançons, mais qui aussi...
Alors justement, qui est Canson, pour qu'on retrace bien l'histoire et qu'on comprenne bien cette généalogie presque ?
Eh bien, les montgolfiers étaient des familles très nombreuses, 19 enfants, 16 enfants, mais à la fin du XVIIIe siècle, l'héritier de la papeterie, un des inventeurs du ballon, Étienne de Montgolfier, n'avait que 6 filles. Donc à son décès, c'est son gendre, Barthélemy de Canson, qui va prendre la succession, et c'est là que le nom de Canson est accolé à celui de Montgolfier dans la fabrication du papier.
Et alors, justement, qu'est-ce qu'ils ont inventé en matière de papier, les Montgolfiers, Marie-Hélène Reynaud ?
Alors, les Montgolfiers, au départ, sont des papetiers qui travaillent traditionnellement, puisque le métier est d'ailleurs très, très fermé. Mais ils savent qu'il faut bouleverser les techniques si l'on veut répondre à la demande. Et ils vont notamment mettre au point en France le papier vélin, c'est-à-dire un papier qui ne laissait pas apparaître ce que l'on appelle les fils de vergure, du papier verger, et qui était très à la mode, mais on ne savait pas le fabriquer en France. On commençait à le fabriquer en Angleterre, mais les relations avec l'Angleterre se réglaient à coups de canon, donc il a fallu le réinventer. Et ensuite, ils ont installé des piles hollandaises, c'est-à-dire un nouveau mode de trituration du chiffon, puisque le papier était fait à partir de chiffon, qui permettait justement d'aller vers l'industrialisation. Et ce sont ces deux innovations des montgolfiers qui sont citées par le roi Louis XVI dans les lettres d'annoblissement de Pierre Montgolfier.
Marie-Hélène, vous dites que le premier ballon a été fabriqué dans cette maison qui est aussi leur papeterie. Le premier ballon, il est fabriqué, il est en papier, c'est une maquette, j'imagine.
Ah non, le premier ballon n'est pas une maquette. Le tout premier ballon qu'ils ont essayé dans la cour de la papeterie le 14 décembre 1782 avait un peu plus de 3 mètres de hauteur. Ensuite, il y a eu le ballon pour l'essai en public devant les États du Varin, on dirait le Conseil Général de nos jours, le 4 juin 1783. Là, on avait déjà un ballon qui faisait à peu près 12 mètres de hauteur. Donc, ce ne sont pas des petits ballons d'essai. Et ce sont ces techniques-là qu'ils vont utiliser pour le premier vol habité devant Louis XVI à Versailles et pour le premier vol humain, bien sûr, à Paris, le 21 novembre 1783.
Dans votre musée, il y a des gravures qui permettent des images qui permettent de retrouver et de voir ces premiers ballons.
Oui, il y a bien sûr une restauration des premiers ballons, mais nous avons des gravures et puis nous avons un certain nombre de documents, de pages de calcul des montgolfiers. Donc ça, c'est le côté ballon. Et puis pour la papeterie, bien évidemment, nous avons remonté les machines. cela veut dire que le visiteur n'est pas dans un musée statique, mais il a des machines qui fonctionnent avec un environnement sonore.
Au cœur de l'histoire.
Et puis, il doit fabriquer des feuilles de papier à la main, puisqu'il y a automatiquement des démonstrations.
Merci infiniment.
Et c'est absolument passionnant d'aller découvrir votre musée, Marie-Hélène. Merci beaucoup pour cette évocation du papier et de la montgolfière.
Merci, et peut-être à bientôt.
À bientôt.
RTL.
Jusqu'à 16h.
L'été made in France.
Sidonie Bonnec, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Quel plaisir de se balader, Jean-Sébastien, dans ces paysages très variés de l'Ardèche. On va faire une pause pour récolter vos bonnes adresses. Il y en a toujours.
On va les grignoter dans quelques belles maisons.
Ah oui, il est 15h06.
De l'Ardèche. On va commencer parce qu'il faut absolument rapporter des châtaignes, des marrons de l'Ardèche. Donc on va s'arrêter à Aubenas, on va aller chez Sabaton. Sabaton, c'est une des grandes adresses gourmandes d'Aubenas et de l'Ardèche. Le savoir-faire là-bas, il est transmis de père en fils depuis 3 générations. La spécialité, c'est évidemment la châtaigne ardéchoise. Ils font de la crème de marron, ils font de la farine, mais surtout, ils font des marrons glacés absolument incroyable. Ça fait partie des grands must qu'on peut trouver en France. Puis alors, à Aubenas, il faut également aller au Fournil. Le Fournil, c'est un très joli restaurant. Vous avez deux chefs, vous avez Trésia Giantnata et Aurélien Del Rio qui sont dans cette belle maison où ils réalisent une cuisine vraiment séduisante, vraiment créative, à base de produits de terroir, un peu subverti par des épices venues d'ailleurs. Et bon, ils sont passés par chez Bocuse pendant longtemps, donc ils ont eu un maître absolument génial. Et ça donne des ravioles de lapin relevées de quelques épices magiques. Ça donne un quasi de veau à l'oignon doux avec juste un peu de curry dessus. Ça donne un filet de barbu aux légumes d'été qui sont magnifiques. Et le macaron à l'encre de sèche est quelque chose d'assez inoubliable. On peut continuer, on peut aller à Privas, par exemple. La Porte des Suds, c'est dans l'hôtel La Chaumette à Privas. C'est Florian Descours qui est à la tête de cette maison. C'est sans doute la meilleure table de la ville. Florian, il est passionné, méticuleux. Il fait une savoureuse cuisine fine, recherchée. Il utilise des produits qui viennent des fermes du coin. Il utilise des lapros d'Ardèche. Il utilise tous les produits que les fermes alentours lui donnent. Alors, on peut se régaler de tartelettes avec les premières girolles. Juste un peu de pulpe de persil, un jaune d'œuf crémeux et une tranche de beau jambon de pays pour relever tout ça. Il fait du mulet de Méditerranée grillé à la plancha avec une pulpe de roquette, quelques moules de bouchot. C'est exceptionnel, comme la poitrine de cochon cuite pendant 36 heures et que vous mangez à la petite cuillère, tellement elle est fondante. Et alors, le dessert, juste des framboises qui viennent des environs, servies avec une crème brûlée croustillante à souhait. Ça, c'est une tuerie. On peut aller dormir aussi dans quelques belles maisons quand on est en Ardèche. Il y a des maisons d'hôtes superbes. Le château Clément, par exemple, on est toujours dans la région d'Aubenas, à la Châtaigneraie. C'est un des cadres les plus enchanteurs qui soit. C'est un petit château chargé d'histoire. Il a été construit en 1864. Il a vu défiler Georges Mandel, Vincent Auriol en son temps. Et il y a 4 chambres douillettes auxquelles on accède par un imposant escalier à double révolution. Il y a beaucoup d'élégance, il y a beaucoup de charme dans cet endroit. On peut aussi évidemment passer à Vallon-Pont-d'Arc. Vallon-Pont-d'Arc, il y a de nombreux campings qui sont remarquablement équipés, notamment le camping Nature Parc l'Ardéchois, qui est un des plus formidables campings du coin. Vous avez le manoir de Raveyron qui est un hôtel de charme posé en plein cœur du vallon, une ancienne demeure du XVIe siècle séduisante à souhait. L'auberge des Granges à Bezaz, ça fait partie des coins complètement géniaux. C'est Tariq Mezri qui a repris l'auberge fondée par son grand-père qui s'appelait Léonce. Il fait une cuisine contemporaine, fraîche, inventive. Il s'inspire avec beaucoup de talent du terroir. Et puis, il propose un carpaccio d'agrumes avec un velouté de châtaigne au ravioles de foie gras, par exemple. Et puis, je vais terminer par une ferme auberge qui fait gîte d'étape et chambre d'hôte. C'est à Chirol. Ça s'appelle les Champs d'Aubignas. C'est une des adresses les plus isolées que je connaisse en France. Les amoureux de nature sauvage, vous allez pouvoir y aller parce que c'est un minuscule hameau accrochés à la montagne. On prend des routes sinueuses, on traverse des châtaigneraies. La route, elle se fait de plus en plus étroite. Et là, on arrive devant une ferme de caractère qui offre des chambres sublimes, un accueil hors pair de Pascal. Les repas le soir à la table d'hôte, c'est du pâté chaud de porc aux châtaignes, de l'agneau confit, du poulet fermier à l'estragon, un bœuf au miel et au cèpe, que des légumes bio de la maison. Et c'est un des endroits, les chambres, 54 €. Le repas du soir, il est autour de 20-25 €. C'est un endroit magique. Et tout ça est sur RTL.fr, bien évidemment.
Merci Jean-Seb pour se remettre de ces belles émotions. On va descendre dans la grotte Chauvet avec le philosophe Michel Onfray. On va vous raconter toute cette histoire.
Jean-Sébastien Petit-Demange.
On joue avec vous maintenant. On a le plaisir d'accueillir Hervé. Bonjour.
Bonjour Sidonie, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hervé.
Vous nous appelez d'où Hervé ?
De Moron-les-Bains.
Vous n'êtes pas très très loin de l'Ardèche, que vous connaissez un peu ?
Ah oui, bien sûr.
Oui, et vous aimez ?
Tout à fait.
Vous êtes prêt à répondre à nos trois questions ?
Eh bien écoutez, on va essayer.
Je vous sens bien concentré et à la fois assez détendu.
Oui, on essaye.
Olivier Dessert est ardéchois et l'Ardèche lui doit beaucoup. Pourquoi ? Il est à l'origine du développement de la sériciculture ou bien il a réalisé les greffes qui ont permis de rendre les châtaignes comestibles ?
Les châtaignes comestibles.
C'est noté.
Les 200 sources de Val-les-Bains sont réputées depuis le 19e siècle pour soigner les troubles dermatologiques ou les troubles intestinaux.
Les troubles intestinaux.
C'est noté.
Dernière question pour vous, Hervé. En Ardèche, on pourra vous proposer de goûter à la mique, la crique ou la bombine. Quel est l'ingrédient commun à ces trois spécialités ? La châtaigne ou la pomme de terre ?
On va rester sur la châtaigne.
C'est noté, Hervé. Est-ce que la châtaigne va vous porter chance ? Non, pas sur la première question. Parce que Olivier Dessert n'a pas trouvé le système des greffes rendant les châtaignes comestibles. D'autant qu'on a retrouvé fossilisé des châtaignes vieilles de 8 500 000 ans, donc l'époque des Australopithèques en Ardèche. Et apparemment, elles étaient déjà comestibles à l'époque. Non, Olivier Dessert, qui est originaire de Villeneuve-de-Berg, est quelqu'un qui a développé la sériciculture, entre autres, parce que il a introduit en France la garance qui donnait le pigment rouge, il a introduit le houblon de l'Angleterre pour évidemment rentrer dans les bières, et il a développé toute la technique du mûrier. Et du coup, Henri IV, enthousiaste en découvrant son travail, a commandé à Olivier Dessert 20 000 mûriers blancs qu'il a fait planter au jardin des Tuileries, et tout cela a fait qu'il a développé, il a été à l'origine du développement de la sériciculture en Ardèche. Vous avez raison, Vals-les-Bains est effectivement une des 200 sources qu'on trouve autour de la ville. L'eau est très réputée dans les affections intestinales. Et puis alors, la crique, la mique et la bombine, c'est pas justement la châtaigne, c'était le piège. C'est la pomme de terre, l'élément principal et l'ingrédient commun. La mique, c'est une boulette de pomme de terre cuite à l'eau. La crique, c'est une galette de pomme de terre râpée. Et la bombine, c'est des patates, des cèpes, des côtes de porc, du filet mignon, tout cela mijoté pendant quelques heures. Hervé, vous marquez donc un point.
Très bien.
C'est parfait, voilà. On note. On va jouer avec Sonia maintenant. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
Alors je vous appelle de Châlons-en-Champagne.
Est-ce que vous passez une bonne après-midi ?
Très bonne.
C'est vrai, vous allez bien ?
Ça va bien.
Non, ouais, c'est chouette. Trois questions pour vous, on y va. Les Voguet sont une grande dynastie ardéchoise. Qui fut Eugène-Marie Voguet à la fin du 19e siècle ? Le premier traducteur d'auteurs russes comme Dostoïevski ou bien le premier agent des peintres impressionnistes ?
La deuxième solution, les peintres impressionnistes.
C'est noté.
En Ardèche, on redoute la burle. Mais qu'est-ce que c'est ? Un vent terrible semblable au blizzard du Grand Nord ou bien un animal légendaire doté d'un visage humain et de pattes de lion et d'un dard venimeux ?
Alors, c'est pas évident, hein ? C'est plus facile à la maison, je dirais la 2.
C'est noté.
Dernière question pour vous, Sonia. On produit en Ardèche un des meilleurs vins effervescents de l'Hexagone. Quel est son nom ? Le Saint-Péret ou le Cerdon ?
Saint-Péret ou le Cerdon ? Alors, moi, je vis dans le pays du Champagne. Alors, je dirais la deuxième.
Le
à tout hasard.
Alors, Eugène Marie Vauguet. Vauguet, c'est, on est à 12 km au sud d'Aubenas, hein, quand on est à Vauguet. C'est une véritable dynastie noble ardéchoise. Le château de Vauguet témoigne d'un millénaire d'histoire là-bas. Et Eugène Marie n'était pas le premier agent des peintres impressionnistes, mais c'est lui qui a été le premier traducteur d'auteurs comme Dostoïevski et qui les a introduits en France. La Burle, bah non, c'est un vent. C'est un vent terrible qui fait froid. C'est un vent du nord qui souffle l'hiver, qui crée des ambiances totalement glaciales quand on est en Ardèche. Et puis, est-ce que bah, vous n'égaliserez pas avec Hervé? Et c'est Hervé qui va se retrouver en finale parce que c'est le Saint-Péret, le vin effervescent. Le Cerdon est aussi un vin un petit peu effervescent qui vient du Bugey plutôt. Sonia, une montre RTL pour vous.
C'est très gentil.
Hervé, un guide du routard, celui de votre choix en plus. Et puis on se retrouve en fin d'émission pour la finale.
Très bien.
Dans un instant, direction la grotte Chauvet. Nous sommes en Ardèche et nous allons retrouver le philosophe Michel Onfray qui va nous offrir une visite.
RTL, chaque après-midi, l'été made in France.
Jean-Sébastien Petit-Demange, Sidonie Bonnec.
Dans un instant, on va vous proposer une visite absolument incroyable. Vous ne verrez plus le monde de la même manière. Nous sommes dans le sud de l'Ardèche, près du Pont d'Arc. Nous allons descendre dans la grotte Chauvet avec le philosophe Michel Onfray. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Michel Onfray. Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance et le bonheur de descendre dans cette grotte Chauvet avec les découvreurs de cette grotte Chauvet. Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller. Et je pense que vous comme moi, et vous l'avez raconté dans Le Point, vous avez été impressionné et c'est une expérience totalement ahurissante de remonter 320 siècles en arrière.
Oui, parce que d'abord, moi, j'ai eu l'occasion de visiter la grotte de Lascaux, la vraie grotte de Lascaux, et c'est déjà un choc terrible, sauf que là, on se retrouve dans un endroit qui est supérieur, je dirais, en tout, en beauté, en ancienneté, et puis en humanité, c'est-à-dire qu'on y trouve des choses qu'on ne voit pas à Lascaux, c'est-à-dire j'ai souvenir de traces de morceaux de comment dit-on, de charbon qui avait servi à des dessins. Il y avait une poudre de charbon au pied d'un certain nombre de dessins. On voit des traces humaines, des pas, on voit une présence humaine qu'on ne voit pas à Lascaux ou ailleurs. J'ai visité quelques autres grottes. Donc de fait, c'est effectivement un moment extrêmement émouvant.
Michel Onfray, déjà l'entrée dans la grotte est un moment presque initiatique. On passe par un tout petit escalier, on descend et le visiter avec Jean-Marie Chauvet est quelque chose de très particulier parce qu'on revit pratiquement ses émotions.
Oui, il y a des émotions à tous les niveaux, parce que d'abord on est avec le découvreur et ses deux amis, c'est-à-dire ce sont quand même des gens extraordinaires qui ont fait un travail fantastique. Ils sont là, ils nous accompagnent, ils nous conduisent, ils nous font savoir ce qui se cache dans chaque endroit, ils nous désignent un certain nombre de lieux qu'on ne verrait pas sinon, ils nous expliquent ce qu'ils se racontent, puis en même temps ils nous disent pas tout, parce qu'ils nous disent bon, ça se mérite aussi, on peut pas passer trois jours là-dedans, mais ils ont vécu dans cette grotte, ils connaissent cette grotte, donc quand on est piloté par des individus aussi généreux, on fait une visite extraordinaire, c'est une visite en Rolls, quoi.
et paradoxalement, on va évoquer ce problème qu'il y a, cette polémique que vous avez soulevée dans Le Point et qui dure depuis longtemps, c'est que en fait, on essaye simplement de leur voler la propriété de cette découverte.
Oui, c'est ça, on appelle un inventeur celui qui découvre la grotte, et de fait, Jean-Marie avait eu ce jour-là le désir d'effectuer une visite dans une anfractuosité. Ses amis l'ont suivi, ils n'avaient pas très envie, puis finalement ils sont allés tout de même, ils ont découvert ce chef-d'œuvre de l'humanité. Et quand on est découvreur, on est inventeur, donc effectivement on peut avoir droit à une protection de l'État. L'État c'est fait pour ça, l'État c'est pas un voleur, enfin, je veux dire, les anarchistes le disaient jadis, ils n'ont pas tort, mais normalement l'État protège ses citoyens. C'est-à-dire quand un découvreur propose à l'humanité quelque chose d'extraordinaire comme ça, alors que l'État est capable de trouver beaucoup d'argent pour rembourser un escroc, homme d'affaires qui a escroqué, etc., etc. On ne va pas donner des noms. Enfin, je veux dire, il y a de l'argent pour rembourser des escrocs quand il s'agit de l'État. Et là, il n'y a pas d'argent simplement pour permettre aux découvreurs de vivre une vie décente.
Michel Onfray, pourquoi on ne leur reconnaît pas ce droit? Pourquoi est-ce qu'on les a spoliés?
Mais parce que quand l'État dit c'est nous qui sommes les découvreurs, tous les produits dérivés, on dira, reviennent dans la poche de l'État. Et il s'agit simplement de ne pas partager. Et quand on vole, c'est simplement pour posséder ce qu'on veut pas donner aux autres et ce qui appartient d'ailleurs aux autres. Légalement, le découvreur, l'inventeur est propriétaire. Et là, il suffit juste de faire une espèce de jeu de papier en disant que le découvreur Jean-Marie Chauvet était là mandaté par l'État pour faire ce travail et que c'est donc en tant que mandaté par l'État qu'il a fait ce travail et que donc il était un fonctionnaire, il a juste fait son travail, comme quoi il peut juste rentrer chez lui, point à la ligne. Et puis après, quand il y a des produits dérivés sur les images, sur les répliques ou les duplications ou ce genre de choses, les écarter en disant maintenant écartez-vous, vous n'existez plus et c'est l'État qui reprend la main.
Michel, alors, c'est une polémique qui dure depuis une vingtaine d'années, c'est loin d'être fini. L'affaire est très compliquée et va durer. Michel Onfray, moi je vous... quand vous avez visité cette grotte avec Jean-Marie Chauvet, quel tableau, quel animal, parce que ce sont vraiment des œuvres d'art impressionnantes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus ému?
Oui, enfin, vous dites l'affaire est très compliquée. Moi, je trouve qu'elle est très simple. C'est simplement un État qui vole des individus qui sont de bonne foi et qui ont juste fait un travail extraordinaire et qui, en plus de ça, sont passionnés.
Absolument.
Il faut être passionné pour faire ce qu'ils ont fait, pour découvrir. Voilà. Donc, ce qu'on découvre, d'abord, on découvre pas tout parce que je vais pas non plus trahir des secrets, mais il y a juste un moment donné où ces amis-là qui se sont fait tellement humiliés n'ont pas tout dit sur cette grotte. Et puis, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas tout dit. Ils nous ont un peu dit ce qu'ils pourraient dire, mais qu'ils ne diraient pas. Et puis voilà. Donc ils ont bien raison. Je veux dire, il faut obtenir la collaboration et l'amitié des gens pour qu'ils puissent partager. Là on les a complètement spoliés. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire par exemple une salle dans laquelle il y a une disposition particulière avec un crâne d'ours qui est posé sur une pierre avec des concrétions depuis des milliers d'années qui montrent une espèce probablement de, disons-le comme ça, d'une église chamanique, enfin d'un lieu de culte chamanique. On peut extrapoler un certain nombre de théories sur ce lieu. On peut penser effectivement qu'il y a encore des religions un peu fossiles et que le chamanisme aujourd'hui en Sibérie ou dans les pays du pôle Nord, par exemple, nous permet de comprendre ce que peut être la pensée des hommes préhistoriques de l'Ardèche. Il y a des peintures chamaniques, il y a des choses qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire l'association d'une femme, d'un animal, là encore. Moi, je suis allé au pôle Nord, jadis, avec mon vieux père, mais j'y avais vu tout un art qui montrait que les animaux et les hommes vivaient dans un même monde. On n'était pas séparés de la nature, à l'époque, on était dans la nature. Donc il y a des traces, il y a des dessins, il y a des agencements qui montrent qu'on peut progresser sur la reconstitution, sur la généalogie, je dirais, d'une pensée, d'une religion, d'un homme préhistorique, quoi.
Alors, tout ça, évidemment, n'est pas visitable. C'est une grotte qui est surprotégée aujourd'hui, et tant mieux pour tout le monde, parce qu'on va préserver ce patrimoine unique au monde. Merci infiniment, Michel Onfray, pour cette évocation, et on continuera, évidemment, à suivre cette affaire avec vous et avec le comité de soutien qu'il y a autour de Jean-Marie Chauvet et de ses amis. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RTL.
14h, 16h.
L'été made in France.
On va jouer maintenant avec Didier. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Vous nous appelez d'où?
Du Nord, une petite commune qui s'appelle Rumegies. Rumegies, Rumegies, entre Orchies et Saint-Amand-les-Eaux.
Merci pour la carte postale. Vous êtes prêt à jouer avec nous? Trois questions.
S'il vous plaît.
Le 10 août 1536, le fils aîné de François Ier meurt au château de Tournon-sur-Rhône. Le dauphin était accompagné de son page au destin glorieux. Et qui était Pierre de Ronsard ou Jacques Cartier?
Pierre de Ronsard.
C'est noté.
La Clède fut longtemps l'un des éléments essentiels de l'économie ardéchoise. Il s'agit d'un séchoir à châtaigne ou bien de l'outil permettant de tirer la soie du coton?
Étant donné que je suis allé par là, je dirais plutôt la soie du coton.
C'est noté.
Sur la commune de Saint-Basile, on trouve le château de Maisonseul qui a pour propriétaire un imitateur célèbre. Est-ce Yves Lecoq ou Laurent Gérard?
Yves Lecoq.
C'est noté, Didier. Alors, 1536, le fils aîné de François Ier, qui devait être François II, effectivement meurt au château de Tournon. Et son page était Pierre de Ronsard. Vous avez tout à fait raison. Pierre de Ronsard qui a été un royaliste fervent et surtout un camarade de nombre des enfants de François Ier. C'est une première bonne réponse. La Clède, je suis désolé, c'est pas du tout l'outil qui permet de tirer la soie du cocon de soie, c'est un séchoir à châtaigne. En fait, ça vient de, c'est la francisation de l'Occident, Cléda, qui est une clé sur laquelle on posait simplement les châtaignes pour les faire sécher. Et puis, vous avez tout à fait raison, le château de Besonceul appartient à Yves Lecoq, qui l'a racheté dans les années 90. On est sur la commune de Saint-Basile, on est juste à côté de Lamastre et d'Annonay. Vous marquez donc deux points, Didier.
Et on va jouer tout de suite avec Nadège. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous nous appelez d'où ?
Évreux.
Vous avez beau temps ? Ça se passe bien ?
Très beau temps.
Formidable. Trois questions vous attendent. On y va. Dans la grotte Chauvet, on a découvert des dessins vieux de 320 siècles et notamment la première représentation du sexe féminin ou la première représentation d'un outil.
D'un outil ?
C'est noté.
À Perbeil, dans les environs de Coucouron, on trouve ce que fut la fameuse auberge rouge ou la célèbre auberge des Thénardier.
L'auberge des Thénardier.
C'est noté.
Dans les années 70, Entraigues sur Volane a vu passer nombre de célébrités gagnant le surnom même de Saint-Tropez-Ardéchois ou de Deauville de l'Ardèche.
Saint-Tropez-Ardéchois.
C'est noté, Nadège. Et c'est noté car vous avez raison. Effectivement, c'est Jean Saussac qui a fait venir Jean Ferrat et qui, à partir de 1964, tombe totalement amoureux d'Entraigues sur Volane. Il achète une maison, il fait retaper cette ruine et à sa suite, eh bien, il fera venir Claude Nougaro, Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Jacques Brel dans cette jolie ville, joli village d'Ardèche où on pourrait dire que pour vivre heureux, il faut vivre perché. Ça pourrait être la devise. Vous marquez un point. En revanche, vous n'en marquez pas un deuxième car ça n'est pas l'auberge des Thénardier à Coucouron, mais c'est l'auberge rouge. Cette fameuse auberge rouge, l'auberge de Perbeil, où un couple d'aubergistes, les Martin et leur domestique Rochette, avaient une notion du commerce et de l'hospitalité très particulière parce qu'après le dîner, en accompagnant leurs clients dans leur chambre, ils les assommaient, ils les trucidaient, il les dépouillait et il les faisait disparaître. Et tout cela a duré de 1810 à 1833. Et on a, comme il n'y avait pas de cahier de compte, évidemment, on n'a aucune idée du nombre de voyageurs qui ont été oxys par le couple Martin dans cette auberge rouge qui a donné l'occasion à quelques films mémorables. Et puis, vous n'égaliserez pas, je suis désolé, avec Didier Nadège, parce que dans la grotte Chauvet, on trouve effectivement la première représentation d'un sexe féminin. C'est une représentation d'une simplicité bouleversante. C'est le premier dessin érotique de l'humanité. Tout simplement, cette Vénus orignacienne, comme on l'a appelée très vite, c'est un vaste pubis noir simplement fendu. C'est la première représentation humaine qui est faite, surtout dans cette grotte. Et comme quoi Gustave Courbet, en dessinant l'origine du monde, n'a été qu'à la suite de ses premiers artistes de l'humanité. Nadège, vous marquez un point. On vous envoie une montre RTL qui part vers Évreux. Didier, le guide du routard, celui de votre choix en plus. Et on se retrouve à la fin de l'émission pour la finale du jour.
Merci.
Merci à vous.
On poursuit notre découverte de l'Ardèche. On va à Entraigues sur Volane. C'est le village du chanteur Jean Ferrat.
RTL, l'été made in France.
Présenté par Jean-Sébastien Petit-Demange et Sidonie Bonnec.
On vous l'a promis, direction le cœur de l'Ardèche à Entraigues sur Volane, où l'on part à la rencontre de Valérie Arbaméline. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous faites partie de la famille du chanteur Jean Ferrat, puisque vous êtes la fille de Colette Ferrat, l'épouse.
Oui.
Du chanteur. Vous vivez à Entraigues sur Volane et vous tenez un restaurant qui s'appelle Lo Podello. Oui. Et qui a une place importante dans l'histoire du chanteur.
Oui, oui, une place importante parce que c'est le premier lieu où, quand il est arrivé à Entraigues, ben, ce lieu existait, était tenu par Hélène Bessade, une personne, un personnage très important, une créatrice de ce restaurant. Et ben, il est venu là et c'était un peu son quartier général puisqu'il n'avait pas encore sa maison. Donc, il logeait chez Hélène aux Alvars et il était, ben, c'était son restaurant, c'était son bistrot, c'était, voilà, c'était là où il pouvait, où il avait des heures, où il pouvait écrire, enfin, voilà, imaginer et puis composer la montagne, quoi.
C'est un visage, un village et des visages aussi, évidemment, qui l'a beaucoup inspiré, Jean Ferrat.
Oh oui, 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 ben oui. Après, il y a eu Sacré Félicien qui a existé aussi, qui était bien là, qui joue aux cartes, aux boules. Donc non, non, les personnages, le paysage, les villages, les fameuses murettes, etc. Tout a été source d'inspiration, je pense.
Qu'est-ce qu'on trouve à Entraigues-sur-Volagne aujourd'hui de l'époque de Jean Ferrat, de ce qui inspirait, de ce qu'aimait Jean Ferrat? Ben, quelle ambiance, quel personnage.
Les parties de pétanque, les parties de longue, de lyonnaise. Il y a eu un open de lyonnaise, justement, ces 2-3 jours. Les boules, l'amitié. Enfin, voilà. Boire un verre sur les terrasses.
Et les paysages formidables.
Les paysages, bien sûr, bien sûr.
Et puis, aujourd'hui, on rend hommage depuis le mois de mars à Jean Ferrat dans la maison Jean Ferrat qu'on peut visiter. On y découvre quoi?
Donc, on y découvre l'exposition qui a été créée en 2004, où Jean était présent par les amis de l'UMA, qui s'appelle Jean des Encres et Jean des Sources, qui retrace la vie de Jean en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Donc, elle est assez importante. Après, il y a aussi d'autres images, d'autres vidéos de Bernard Pivot, de Drucker, d'émissions de télé, et puis aussi des émissions, des photos de son jardin, et puis surtout son bureau. Colette a tenu à faire partager avec les visiteurs le bureau, le piano de Jean, sa guitare. Donc voilà. C'est un petit bout de la maison qui est dans cette maison-là, sur la place.
Pour vous, c'est quoi votre carte postale d'Entraigues-sur-Volagne, Valérie?
Bah, c'est la place, la fontaine, les bistrots, les joueurs de pétanque, les rivières alentour, qui sont quand même importantes parce que c'est très agréable aussi. Et puis, oui, dans cette place, c'était important pour Jean.
Et il faut aller la découvrir si l'on se rend en Ardèche et notamment en Entraigues-sur-Volagne. Merci beaucoup,
voilà.
Valérie.
Je vous en prie.
Belle
Merci
fin d'été.
À vous. Au revoir.
Dans un instant, on va jouer, c'est la finale. On va réunir nos trois finalistes, on va leur poser cette fameuse question et on leur fera gagner un très joli cadeau. Ce sera dans quelques instants. C'est l'été Made in France avec vous jusqu'à 16h.
RTL, l'été Made in France.
Sidonie Bonnec, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Il est temps de jouer la finale. On va poser la question à nos trois auditeurs. Michel, vous êtes là?
Je suis là.
Hervé?
Oui, je suis ici.
Parfait. Et puis Didier?
Je suis là.
Merveilleux.
Parfait, fantastique. On va vous poser la question pour que vous tentiez de remporter ce bon d'achat de 150 euros à valoir sur le site myfujifilm.fr pour faire vos albums de photos, vos petits objets que Sidonie collectionne depuis le début de l'été. Elle a fait le mug avec sa photo, elle a fait l'assiette avec sa
photo.
C'est
pas vraiment une photo de vacances.
Elle a fait la boule à neige avec sa photo également. Oui, oui. Et tout ça est absolument
et vous ne parlez pas de votre très beau t-shirt avec votre visage devant, derrière, bon, c'est pas grave.
Allez, soyons sérieux, voilà la question finale pour vous trois, Michel, Hervé et Didier. En quelle année les frères Montgolfier, qui sont nés en Ardèche donc, ont-ils fait voler leur premier ballon? On en a parlé tout à l'heure dans l'émission. En quelle année les frères Montgolfier ont-ils effectué le premier vol en ballon? C'est à vous de faire.
RTL, l'été, Made in France.
Jean-Sébastien Petit-Demange, Sidonie Bonnec.
Nous sommes en train de jouer la finale de l'été Made in France. Nous avons posé à nos trois finalistes auditeurs cette question. En quelle année les frères Montgolfier, nés en Ardèche, ont-ils fait s'envoler leur premier ballon? Michel, quelle est votre réponse?
1783.
Hervé?
1792.
Didier?
Didier?
1799.
1799. La bonne réponse, l'un ou l'une d'entre vous, là, pile poil, c'est 1783. Et c'est donc Michel.
Ah,
c'est 1783, premier vol en ballon. Michel, vous remportez ce bon d'achat myfujifilm.fr d'une valeur de 150 euros, en plus de la montre RTL et du guide du routard, comme vos deux concurrents Hervé et Didier. Et puis, on va se retrouver, Michel, samedi, pendant l'émission, pour tenter de remporter ce séjour vacances bleues d'une semaine à Megève, au chalet du Prarian. Merci de votre participation.
Bravo à vous.
Allô, oui.
Merci.
Bravo à vous.
Merci. Et puis, je tenais à dire merci à RTL parce qu'il y a 2 ans, vous m'avez permis de faire un beau voyage à Rio.
Génial.
Eh bien, nous sommes ravis.
Absolument.
Et demain, on part pour notre dernier jour découvrir le pays Narbonnais.
Absolument. Après pour le centenaire de la naissance de Trainé.
Et puis après les informations, vous aurez les grosses têtes de l'été de Philippe Bouvard, bien sûr. RTL, il est 16h.